8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 8 milliards de voisins. Aujourd'hui, voyage au pays des mafias nigérianes. On les appelle au Nigeria les cults. Ce sont des groupes criminels qui règnent sur des réseaux de prostitution, de trafic de drogue, trafic de migrants, kidnapping, cyberfraude et basse besogne en tout genre pour le compte de politiciens. Ces gangs, nombreux, reconnaissables à la couleur de leur béret au Nigeria, qui sont aussi des dérives des fraternités étudiantes post-coloniales, racontent le délabrement d'une société créative mais ultra-violente. Et surtout, ces gangs inquiètent les polices du monde, à Palerme, à Marseille, mais aussi aux États-Unis. Célia Le Bur et Johan Tilwin, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes journaliste, vous publiez une enquête de 300 pages, ultra documentée, qui s'appelle Mafia Africa, les nouveaux gangsters du Nigeria à la conquête du monde, aux éditions Flammarion. Une enquête qui vous a emmené des quartiers nord de Marseille à Benin City, au Nigeria, en passant par Palerme. Ce pays de 215 millions d'habitants, le Nigeria, il faut le rappeler, c'est une enquête qui se lit, ou plutôt qui se dévore comme un thriller, peut-être aussi avec les frissons qui vont avec. Et nous serons également tout à l'heure en ligne à Palerme, en Sicile, avec notre correspondante Cécile Debarge. Elle nous expliquera très concrètement comment la mafia nigériane cohabite désormais avec Cosa Nostra. Et quant à vous, les voisins et les voisines, évidemment, vous pouvez poser toutes vos questions en direct à nos invités au 33 7 64 45 51-41. Et puis en fin d'émission, changement de décor avec l'un de nos portraits, l'Afrique qui gagne, plus positif, Jael Oliver, africain-américain, a créé Hello Tractor au Nigeria, au Kenya, pour aider les agriculteurs à se mécaniser, pour produire plus, parce que l'Afrique possède aussi les plus faibles rendements agricoles au monde. Sans oublier le super programme musical de Romain Dubrac, à retrouver sur Spotify à la page 8 milliards et sur RFI Pure Radio. Programme évidemment 100% nigérian aujourd'hui. Le Nigeria qui est la scène la plus inspirante du monde, mais qui serait aussi peut-être largement impliquée dans les bas-fonds des cults.
8 milliards de voisins.
On échange.
Bonjour à tous les auditeurs des RFI.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Célia Le Bur, Johan Tilwin, qui veut commencer pour parler de cette extraordinaire capacité de nuisance de ces gangs nigérians?
Je me dévoue. pour commencer, peut-être un petit tour d'horizon sur ce que sont ces cultes, qui sont donc des groupes criminels aujourd'hui, qui s'étendent finalement quasiment sur les 5 continents, qui à l'origine étaient donc des confraternités nigérianes, qui sont nées sur les campus des universités dans le sud du pays, à l'orée des années 50, et qui se sont multipliées et qui se sont dévoyées au fil des décennies, notamment sous la houlette des dictatures militaires au Nigeria, qui ont, par le passé, beaucoup instrumentalisé en fait ces groupes-là dans des contextes économiques et politiques donc très difficiles, et qui ont aussi débordé des campus dans un contexte où il y avait énormément de pauvreté, et où finalement l'appartenance à ces groupes-là représentait une forme d'avenir, une forme de perspective pour beaucoup de jeunes au Nigeria qui n'avaient pas de travail et très peu de vision d'avenir.
Vous citez une note confidentielle de la délégation de l'Union européenne à Abuja qui estime que le Nigeria compterait à l'heure actuelle plus d'un million de membres enrôlés dans ces gangs avec plusieurs centaines de morts par an. Ça, c'est rien que pour le Nigeria. Ça semble énorme.
Oui, ça peut sembler énorme, mais c'est à l'échelle du Nigeria, qui compte plus de 200 millions d'habitants. Les cultes, donc ces groupes criminels, recrutent dans toutes les strates de la société. Certains de leurs membres ne sont d'ailleurs pas du tout impliqués dans la criminalité. On y retrouve tous les représentants des différents niveaux socio-économiques de la société.
Quand vous dites ces gangs, ils sont très nombreux, ces gangs. Il y a les Black Axe, les Vikings, les Hay, les Mafits, les Juristes. Ils ont des spécificités les uns les autres, ou ils ne sont que concurrents?
Alors, ils sont concurrents, mais chaque groupe a sa propre mythologie, sa propre histoire et ses propres référentiels. Certains sont des référentiels qui puisent dans le panafricanisme, d'autres comme... donc ça, c'est le cas du Neo Black Movement of Africa, par exemple. Mm-hmm. D'autres, comme les Vikings, puisent dans la mythologie scandinave, des Vikings, tout simplement. Les Mafites, eux, s'inspirent plutôt des récits de la mafia italienne. Tous ces groupes ont des récits, des propres narratifs qui ont été constitués par des étudiants à l'époque sur les campus universitaires, qui ont inventé à la fois des récits, mais parfois une spiritualité qui panache à la fois dans les mystiques précoloniales et dans le modernisme, dans l'ultracapitalisme, parce que ils sont aussi le reflet d'un ultracapitalisme très nigérian.
Vous décrivez de long en large une violence qui est omniprésente dans ces gangs, hein, rien que pour les réseaux de proxénétisme nigérian à Marseille. Les écoutes judiciaires françaises donnent un aperçu du quotidien d'un des chefs de gangs, où les questions de vie ou de mort se réduisent, écrivez-vous, à de simples considérations logistiques, hein. Il parle d'une de ses prostituées. Elle me dit sans arrêt qu'elle ne travaille pas. Est-ce que je dois la tuer? Le meurtre semble être une option comme une autre pour le trafiquant de corps et d'âme. Il n'a que 23 ans. Comment ces gangs, dont les membres sont allés très peu à l'école, ont pu naître au cœur des campus, notamment celui d'Ibadan, qui est le Harvard du Nigeria?
Alors en fait, c'est à Ibadan qu'a été constituée la première confraternité étudiante du Nigeria. Donc c'est l'un des cofondateurs, c'est la figure, le très grand écrivain nigérian, Wole Soyinka, qui est le premier prix Nobel de littérature du continent africain. Et à la base, c'était plutôt, quand on en parle avec Wole Soyinka...
On est dans les débuts des années 50. Hein.
Oui, c'est ça. On est juste avant l'indépendance, finalement, du Nigeria. Et donc, c'était à la fois un groupe qui était utopiste, assez élitiste, parce qu'il y avait quand même... Pour les intégrer, il fallait faire partie des meilleurs élèves. Mmh. Ils se sont créés une sorte de petit délire. Hein. C'est comme ça que Wole Soyinka le décrit. Et c'était quasiment de la contre-culture, un peu de l'underground, finalement. Et ça, c'est la première confraternité. Et eux, leur thématique, c'était les pirates. Donc, elle s'appelle les Pirates. Mmh. Par la suite, en fait, il y a eu...
Il le dit, parce que vous l'avez rencontré, hein, vous êtes allé le voir. Il le dit, on voulait pas que ça soit trop sérieux, on voulait juste casser cette acculturation britannique, hein, éviter de tomber dans le piège dangereux du tribalisme aussi, réunir les différentes classes sociales autour d'une quête de l'intelligence.
Absolument, et l'idée c'était aussi de constituer une sorte de vivier d'une élite éclairée qui soit capable de participer, de contribuer, de diriger même le Nigeria indépendant. Donc ça se considérait comme ça, donc c'était très ambitieux, très délirant, très créatif, et par la suite, certains dissidents ont créé d'autres groupes. Alors, c'est souvent des gens qui ont été déçus, puisqu'ils ont été exclus de ce groupe, de Wole Soyinka et ses amis. Ils ont créé d'autres groupes sur le campus d'Ibadan, puis sur d'autres campus. Et là, des tensions sont apparues, des revanches. Et par la suite, ces groupes sont devenus, se sont criminalisés, ont recruté en dehors des campus. Et c'est là que tout est...
Dans les années 80, quand même, je vous arrête un petit instant, les cults sont dans toutes les universités du pays pour lutter d'abord aussi contre la répression policière. Mais alors, comment s'opère la dérive? Parce qu'il faut faire rentrer des armes sur les campus pour se protéger de la police. Il faut trouver de l'argent, donc avec des petits trafics, forcément. Il faut recruter de nouveaux membres dans ces cults. Et c'est à partir de là que tout commence à dériver.
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que justement les cultes sont plutôt à l'avant-garde des mouvements utopistes, idéalistes, contestataires au Nigeria, justement, à cette époque-là. Et il va y avoir ce tournant où, d'une part, déjà, au sein des campus, le gouvernement, notamment militaire nigérian, comprend qu'en fait, ces groupes-là peuvent servir à mater les révoltes. En montant les étudiants les uns contre les autres, c'est la meilleure méthode, parce qu'il y a des leaders syndicaux à cette époque-là qui sont extrêmement vocaux, extrêmement influents, et c'est eux qui mènent même les manifestations et les révoltes qui vont déborder en dehors des campus, pour contester par exemple les programmes d'ajustement structurel qui sont imposés et qui du coup serrent la ceinture, les gens ont faim, les gens vraiment se révoltent. Et du coup, ils vont commencer à les instrumentaliser contre d'autres leaders syndicaux étudiants, justement les cultistes, à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, on parle beaucoup en fait d'accointance et de complicité au sein même des administrations universitaires.
Des autorités académiques, des présidents d'université qui ferment les yeux et voire même qui embauchent leur garde du corps au sein de ces groupes.
Absolument. Il y a visiblement une bienveillance envers ces groupes-là à ce moment-là. Donc d'une part, sur les campus, on voit cette dérive vraiment avec une forme de complicité en haut lieu des hiérarchies. Et puis par ailleurs, c'est aussi le moment où, surtout au moment à peu près des années 90 et début des années 2000, où ils vont commencer la structure hiérarchique de ces cultes va perdre petit à petit le contrôle sur sa base.
Avec des profs qui sont kidnappés, énormément de viols sur les campus.
Et il y a un moment qui est un tournant, c'est le massacre à l'université d'Ile-Ife, où à l'aube ou de nuit, dans les dortoirs, un commando qui serait des Black Axe a tué de sang-froid au moins 5 étudiants.
Ouais. Des étudiants appartenant à un autre gang, en fait. Hein. C'est une histoire de rivalité, non ?
Peut-être. En tout cas, l'enquête n'a jamais pu arriver à terme et personne n'a été condamné.
C'était des leaders étudiants, justement, qu'ils ont tués. Et en fait, la conflictualité et la rivalité entre ces groupes-là va faire augmenter la violence et va faire augmenter le recrutement dans les rues en dehors des campus.
Le terreau des gangs, c'est le délabrement des institutions, qui conduira d'ailleurs à ce que certains appellent, vous le rappelez dans le livre, la démocratie. Hein. C'est ce pays qui devient fou, qui tourne à vide. La ville des gangs, ensuite, le berceau, c'est là où tout se passe, hein, c'est Benin City, au sud du Nigeria, dans l'état d'Edo. Tout culte digne de ce nom, écrivez-vous, se doit d'être présent à Benin City. C'est leur Mecque, opérationnel à Upper Sakbomba, qui est un quartier populaire, leur maquis urbain transformé en champ de bataille perpétuel. Et là, vous décrivez des scènes hallucinantes à Benin City.
Oui, parce que Benin City, c'est aussi le lieu où s'entremêlent les réseaux à la fois politiques à très haut niveau et les réseaux criminels en haut comme en bas, c'est-à-dire des petits soldats jusqu'aux généraux. Et donc, c'est un laboratoire. C'est à l'université de Benin City qu'a été constitué le mouvement du Neo-Black Movement of Africa. Et c'est aussi à Benin City qu'a été constitué ce qui est devenu un autre grand culte, les Mafites. Donc, tout cela sont rattachés à Benin City, capitale aujourd'hui de l'état d'Edo, en effet. Autrefois, c'était la capitale d'un royaume qui a été merveilleux et scintillant, qui s'est effondré au 19e siècle. Et c'est aujourd'hui un terrain de bataille, de lutte, dans lesquels les cultes sont très, très, très actifs.
Où le caillou de crack se paye cash, les services sexuels d'une fille dans un bar peuvent aussi se négocier en crédit téléphonique. Et où, ce que vous décrivez, c'est on a une ambiance très joyeuse dans les rues, mais qui peut se transformer en enfer de violence en quelques secondes. Et ça, vous l'avez vu.
Oui, on a eu déjà du mal à entrer dans ce quartier-là parce que ce qu'on raconte, c'est qu'effectivement, ce sont des quartiers très compliqués parce que il n'y a pas d'ONG étrangères quasiment ou pas
dans ces quartiers-là. Tout est verrouillé par les cultes, en fait.
C'est très verrouillé par les cultes. Chaque carrefour est dominé par un gang différent, par un groupe différent, en fait. Et il y a, du coup, même la police et les autorités nigérianes n'osent plus entrer dans ces quartiers-là. Les quelques commissariats qui existaient ont été cramés pendant les mouvements populaires NSARS en 2020. Donc, en fait, finalement, nous, le moyen le plus simple, entre guillemets, qu'on a trouvé pour y entrer, c'est avec des cultistes. Et puis, sinon, les seuls qui y vont, ce sont les vigilantes, ces milices qui sont, en fait, créées par l'état d'Edo, qui sont vraiment une forme d'armée parallèle et qui eux ont en fait le courage parce que ces membres sont bien souvent soit d'anciens cultistes eux-mêmes, soit des habitants de ces quartiers-là et qui veulent restaurer l'ordre en fait. Mais sinon, c'est extrêmement compliqué.
Comment les gangs recrutent leurs membres ? Pourquoi un jeune, plus qu'un autre, va être amené à intégrer un culte, donc littéralement une secte, un gang ?
Alors oui, Oui, c'est des sociétés secrètes. Il y a plusieurs parcours. Il y en a qui sont enrôlés contre leur gré, c'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment pas le choix. C'est des gamins du quartier. Et à un moment, il y a les grands qui leur disent « Maintenant, tu vas être des nôtres ». D'autres qui le font par choix parce que, en fait, le culte vous donne aussi une appartenance à une famille, une certaine puissance, et tout d'un coup, vous donne aussi des réseaux. Alors, pour le meilleur ou le pire, mais ça vous donne des réseaux. Les rites d'initiation, puisqu'il y en a. On rentre pas dans un culte comme ça, on signe pas un papier, il faut passer le rite d'initiation qui est souvent très très violent, c'est-à-dire que beaucoup de rites d'initiation en fait reviennent à être roués de coups, à être frappés, à être parfois se prendre des coups de couteau aussi, etc. Certains meurent dans les rites d'initiation, que ce soit au Nigeria ou en Europe. Et ensuite, il faut boire une concoction. Alors, parfois, c'est du sang. Parfois, c'est simplement un colorant qui donne l'impression de boire du sang. Et ensuite, réciter des prières du culte. Donc, voilà, il faut psalmodier et prêter allégeance et ne jamais trahir le culte, car toute trahison vaut la mort. Et tout cela est sous l'impression d'avoir une bénédiction ou en tout cas une surveillance d'esprits ancestraux.
Mais ces pratiques occultes, c'est de la mise en scène ou ça compte au moins autant que l'argent et les armes ?
Je pense qu'il y a une vraie dimension spirituelle, en fait. C'est pas uniquement du folklore et du show-off, en fait, vraiment. Parce que ça fait appel quand même à des croyances ancestrales, précoloniales, auxquelles tiennent énormément les sociétés nigérianes en général, puisque chaque région a aussi ses propres croyances, a sa propre adaptation de ce qu'on appelle le juju, qui est une sorte de vaudou local, et qui se mélange avec, évidemment, comme il y a eu une évangélisation chrétienne, et avec des croyances liées aux religions pentecôtistes aujourd'hui, etc. Mais ces gens-là croient véritablement, et d'ailleurs on l'a vu notamment avec les victimes, ces femmes qui sont envoyées sur les routes de la traite et de la prostitution après en Europe et ailleurs, elles-mêmes ont été tenues et sont tenues pendant des années, pas seulement par la coercition physique, mais aussi par la croyance réelle que si elles s'affranchissent, elles seront rattrapées par les esprits. Par les esprits du juju et qu'elles seront punies ou que leurs familles seront punies. Donc c'est extrêmement prégnant en fait ces croyances-là.
Dans quelle mesure les cultes ont infiltré finalement les cercles du pouvoir ou du moins se rendent utiles au moment notamment des campagnes électorales, je pense à la récente élection présidentielle. Comment font ces gangs en fait pour peser sur les décideurs politiques alors que eux ne sont pas allés à l'université et que c'est pas du tout le même milieu social?
Alors leurs chefs, leurs chefs sont souvent ceux qui ont parfois constitué ces mouvements, ces groupes, et l'âge aidant, ils ont, c'est pour certains, on pense à certains ministres qui sont actuellement en exercice dans l'état d'Edo, certains gouverneurs dans la région du sud du Nigeria qui sont membres de ces groupes, et donc c'est l'élite en fait, comme dans ces mouvements-là, il y a une élite, il y a les petits soldats dont on a parlé, mais il y a aussi une élite qui a prospéré soit dans le business, dans les affaires, qui est très riche, qui dispose d'une force de frappe financière, et d'autres.
Qui rend service à qui, en fait, là-dedans ?
Les deux. D'autres occupent des postes politiques, les deux. C'est-à-dire que, en fait, les petits soldats des quartiers miséreux dépendent des missions, des commandes, des ordres, des chefs qui sont dans l'élite, dans les beaux quartiers, et avec qui ils ont des contacts grâce à ce mouvement, grâce à ces cultes. Donc ça donne un réseau, ce qu'on disait tout à l'heure. Les hommes politiques qui sont membres de ces groupes, eux, ont besoin de cette force de frappe, des petits soldats capables à la fois de faire des basses besognes, d'intimider des opposants politiques ou des rivaux, mais aussi parfois d'accomplir des missions de trafic de drogue ou autres criminalités partout dans le monde. Sachant que l'argent de ces crimes commis partout dans le monde en très très grande partie, revient au Nigeria par des systèmes de transfert de fonds sans traçabilité, c'est la Wala.
Vous avez cité à plusieurs reprises le Neo Black Movement of Africa, qui n'est pas précisément un culte, mais qui a pignon sur rue, qui est une organisation qui s'affiche comme panafricaniste, comme caritative, qui a davantage un statut associatif. Au fil de votre enquête, vous montrez comment c'est une couverture d'un culte ultra-violent qui est le Black Axe, qui est le gang le plus puissant, le plus mondialisé, et comment cette association est dirigée par un notable très riche, Félix Koupa,
Comment vous avez pu, vous l'avez rencontré d'ailleurs, ce notable, hein, il se défend d'avoir tout lien et avec des gangsters, hein, ou en tout cas il dit qu'il ne serait pas responsable de certaines dérives. Comment à un moment donné vous vous dites, mais le lien est évident, il est incontestable?
Alors, nous, on se le dit pas, c'est pas à nous de le dire, on a enquêté. Les cultes, il faut savoir que c'est interdit au Nigeria. Donc, en fait...
Officiellement.
Absolument. Il y a plusieurs anti-cultes là-haut. Donc, beaucoup de ces organisations ont créé des associations. Qui sont souvent des associations culturelles, philanthropiques, caritatives, qui sont suspectées par les polices du monde entier, notamment américaines, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, suspectées d'être des couvertures pour ces cultes. Le Neo Black Movement of Africa, effectivement, ça s'est constitué ainsi, donc le 7/7/1977 sur le campus de l'université de Benin City, et ça, son inspiration, c'est le panafricanisme, c'est les grands discours de Kwame Nkrumah, de Kadhafi par plus tard, etc. D'ailleurs, leurs membres ont souvent des noms d'appartenance de culte qui puisent dans les noms de ces grandes figures du panafricanisme. Donc on retrouve des Lord Kwame Nkrumah, des Lord Kadhafi, des Lord Julius Nyerere, etc. Maintenant, ils avaient un magazine au départ qui s'appelait Black Axe, en fait, qui était le magazine qui était diffusé sur l'université de Benin City et qui s'appelait Black Axe, la hache noire, qui est une référence à la fois à l'outil du paysan africain par excellence, notamment avant le colonialisme, et qui est aussi une arme utilisée par ses membres aujourd'hui pour décapiter ou taillader des ennemis dans les combats de rue. Donc tout cela est extrêmement complexe. Le Neo Black Movement dispose de très bons avocats. Ils sont extrêmement procéduriers et ils démentent tout lien entre Neo Black Movement of Africa et Black Axe. Par contre, les polices italiennes, américaines, d'autres polices européennes estime que Black Axe et Neo Black Movement sont une et unique organisation.
Et d'ailleurs, les échanges, notamment pas mal d'écoutes téléphoniques et d'échanges de mails auxquels on a eu accès nous-mêmes d'enquêteurs étrangers et qui sont assez édifiants, on voit en fait que dans leur intimité de leurs échanges, ces membres-là du fameux Neo Black Movement, qui est donc censé être l'organisation caritative, utilisent exactement les mêmes termes entre eux, Aïe et X-Men, pour se saluer, que les Black Axe. On voit qu'ils ne font pas la distinction en terminologie, ils utilisent en alternance les termes Black Axe et les termes Neo Black Movement, NBM. Donc en fait, ils confondent tout à fait ces deux notions-là, et visiblement pour eux, il s'agit bien de la même chose.
Ils ne sont pas devant un micro. Voilà. Et aux États-Unis, il y a eu plusieurs arrestations de dirigeants du Neo Black Movement of Africa au Texas, notamment.
Alors au Texas, Afrique du Sud aussi, le Neo Black Movement a des filiales partout sur le continent africain, mais aussi ailleurs.
On parle des mafias nigérianes, comment elles essaiment aussi dans le monde entier, on va en discuter. Et vous pouvez bien sûr nous téléphoner pour poser des questions au 33 7 64 45 51 41. Écoutez la note vocale de ce voisin au Cameroun, à Yaoundé.
Bonjour RFI, bonjour Amélia de voisins, Awa Patik du Cameroun. Comment une mafia au Nigeria qui est reconnue peut susciter des craintes au niveau international? Comment les gens qui sont identifiés comme faisant partie d'un groupe de mafieux, on ne parvient pas à les arrêter? C'est inexplicable. Jusqu'aux États-Unis, Marseille, tout ça, c'est incompréhensible. Que fait Interpol? Merci de me répondre.
Alors, on a aussi un message d'un voisin béninois qui habite à quelques heures en voiture de la frontière nigériane, Aliou, et qui dit « Mais comment est-ce possible que ces mafias aient pu étendre leurs tentacules vers l'Occident ? Que fait Interpol ?» nous demande Patrick. On va en discuter en deuxième partie d'émission, si vous êtes d'accord. Et on va donc répondre à ces questions, notamment avec notre correspondante en Sicile. Vous aurez des éléments de réponse. Et il n'y a pas que les cultes nigérians, qui essaiment dans le monde. La musique, avec ses tubes, ses refrains en pidgin, s'exporte jusqu'à New York ou Téhéran. On écoute un extrait de l'album Made in Lagos, Wizkid et Damien Marley.
I keep it nappy and I do what make me happy and nobody can deny me that I'm blessed. I might be rough around the edges, maybe yes. I keep it nappy and I do what make me happy and nobody can deny me that I'm blessed. Self-preservation, self-elevation, these kind of these days deserve celebration. No hesitation, no reservation, go for the big leagues, no relegation. Let's celebrate life, kick back and take five, and give thanks to the source that create life. To see a sunset or see a sunrise, and see my son born with these same eyes. To see my son smile bright in every gray sky. He's growing so fast, that's why every day I give it 100, now stop at 90. The Almighty, the Father, and I say,
tonight I'm feeling blessed, oh. Say, tonight me and my guys, we go gang, baby. Oh, 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 oh. Say, tonight my no go stress, oh. Say, tonight me and my guys, we go gang, baby. Oh, 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 oh.
Yeah, yeah, truly. Make I tell you, say, my life is like a movie. And if I tell you all these things, I don't see truly. Say, my eyes don't see before my life come be. Say, many try to fool me, but I did pray for my enemies and truly. And I did pray for my kids, that's my blessing. Pray for the friends I lost. I pray you never see no loss. Yeah. One pressure, feet on two pressure. I don't see where pressure make man record. Yeah, so make you live your life or judge and no regret. I'm up with my pressure. Now got it, man, no get control. My brother make you know. Life where I did live, say I did live, I'm on a low. Hustle every day, I'm willing just to take control. Never buy the money, man, I'm staying in my zone. Yeah.
C'est Wizkid et Damien Marley, on en parle évidemment chez 8 milliards de voisins en direct, cette scène nigériane musicale tellement inspirante pour le reste du monde. Et ça n'est pas sans relation totale avec Mafia Africa, votre livre enquête, gigantesque enquête, Célia Le Bur et Johan Tilwin, les nouveaux gangsters du Nigeria à la conquête du monde. À plusieurs moments du livre, vous faites référence à ces artistes de la scène nigériane, Célia.
Oui. Alors, c'est un peu un secret de polichinelle. Hein. Au Nigeria, tout le monde à peu près sait et dit que les stars de l'afropop nigériane sont effectivement, pour certains, membres de ces cultes. Et effectivement, on peut détecter des allusions, des références et des hommages à la fois dans leurs chansons, dans les paroles parfois, et aussi dans les codes gestuels qu'ils utilisent. On peut repérer dans certains clips... un tel ou un tel, faire le salut, le check de l'avant-bras comme le fait NBM, il y en a un autre qui le fait comme les Vikings, etc. Et si on prend par exemple le cas de l'ultra-star Davido, c'est vrai que nous, la direction du mouvement, du Neo-Black Movement, nous l'a dit hein, de manière très claire et explicite qu'il était membre du mouvement. Effectivement, voilà, après c'est censé être la partie du mouvement officiel, hein, évidemment, l'organisation caritative. Mais voilà, ça fait partie de ce qu'on disait, d'une espèce de pop culture aujourd'hui, d'être membre un petit peu comme les gangsters et les rappeurs américains aujourd'hui. Et voilà, donc c'est
qui inspire qui, c'est toute la question.
Oh bah les deux, je pense que c'est un lien aussi, c'est de la pop culture, c'est devenu quelque part assez cool. Et puis par ailleurs, aujourd'hui, l'afropop est la mélodie de Lagos, de toute l'Afrique et bien au-delà. Enfin, c'est une musique qui aujourd'hui rayonne dans le monde entier et qui quelque part reflète une énergie extraordinaire du Nigeria.
Alors, bien sûr, ce que vous avez décrit en première partie d'émission, l'affairisme hein, de ces gangs qui sont extrêmement nombreux, on aurait près d'un million de personnes au Nigeria, dans un pays de 215 millions, c'est quand même beaucoup, qui seraient enrôlés dans ces gangs, souvent de force, vous l'expliquez, trafic de stupéfiants, prostitution, etc. Et nos auditeurs qui se disent, mais comment ces gangs ont pu partir à la conquête du monde? Comment ces gangs peuvent inquiéter les polices du monde entier? Je vous propose tout de suite de partir pour l'Italie, enfin la Sicile, avec notre correspondante Cécile Debarge à Palerme. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Vous êtes installée sur les terres de Cosa Nostra depuis 2014. Est-ce qu'à cette époque, on parlait déjà de l'arrivée de la mafia nigériane avec ses cultes, ses gangs?
Oui, alors en 2014, les cultes nigérians sont déjà bien présents en Sicile, mais c'est encore un sujet qui est plutôt réservé aux initiés, aux magistrats bien sûr, mais aussi aux travailleurs sociaux par exemple, qui travaillent sur les questions de traite des femmes nigérianes. Parce qu'en Italie, et en particulier en Sicile, les questions de confraternité nigériane et de traite des femmes nigérianes sont étroitement liées. D'ailleurs, c'est plutôt en 2016-2017 qu'on en entend parler dans la presse mainstream, on va dire. Faut se remettre quelques chiffres en tête pour bien comprendre. En 2016, on compte 11 000 Nigérianes qui sont arrivées en Italie après avoir traversé la Méditerranée, contre 435 en 2013. Donc on a un chiffre qui a été multiplié par 25 en 3 ans. Or, on estime que 80% de ces femmes finissent dans des réseaux de prostitution à leur arrivée. On a donc tout à coup, dans l'espace public sicilien, mais aussi italien de manière générale, une présence très visible de ces femmes noires qui se prostituent. Et là, ça va alimenter de nombreuses enquêtes de police, de nombreux articles de presse. On retrouve à chaque fois ou presque les confraternités. À Palerme, il y en a deux qui se disputent le magot, les Ayés et le Black Axe, même si c'est surtout le Black Axe, littéralement la hache noire, qui est le groupe le plus ancré en Sicile.
Ayé qui veut dire oiseau en Yoruba,
en Yoruba, absolument, oui.
Comment leur présence, Cécile, a été acceptée par la mafia locale sicilienne Cosa Nostra?
Bah, c'est bien, puisque ces confraternités ont été les premières, selon les sources judiciaires, à sceller un pacte avec Cosa Nostra. Les mafias italiennes, depuis toujours, sont très liées au contrôle des territoires. Donc, ce qui se passe dans les rues de Palerme doit se faire avec l'aval de la mafia sicilienne. C'est un peu comme si Cosa Nostra louait, en quelque sorte, ses trottoirs pour que les confraternités nigérianes y organisent des activités de prostitution. Et ça, c'est une première. En Italie, ça a beaucoup marqué les esprits. Dans la presse nationale, on retrouve de nombreux articles d'ailleurs, qui compare les deux groupes criminels. Dans un article que je retrouvais du journal local Giornale di Sicilia, le journal expliquait à ses lecteurs en 2016 que le Black Axe, ce n'était ni plus ni moins qu'une mafia africaine comme Cosa Nostra, mais plus violente que la mafia palermitaine. Elle est aussi appelée des fois la pieuvre noire, alors que traditionnellement, la pieuvre, ça désigne en Italie la mafia sicilienne et son côté tentaculaire.
Sacrée concurrence. Comment la justice italienne fait face au phénomène, du coup?
Elle a une double réponse. D'abord, elle utilise des instruments judiciaires qui sont d'ordinaire réservés aux mafias italiennes, ce qui veut dire que la justice italienne considère que ces confraternités mouillées dans le trafic de drogue ou la traite des femmes, eh bien, ce sont des mafias. Et c'est loin d'être facile à démontrer. En 2016, par exemple, on a un gros coup de filet. 19 membres supposés du Black Axe sont arrêtés. En février 2023, donc on est presque 7 ans plus tard, 5 d'entre eux sont innocentés par la Cour de cassation italienne pour les accusations d'appartenance à un groupe mafieux. Ils doivent d'ailleurs être rejugés par la Cour d'appel. Et puis il y a eu aussi quelques repentis, c'est grâce à eux que les magistrats comprennent peu à peu comment fonctionnent ces groupes criminels. Donc d'un côté, on a les instruments historiques de la justice italienne qui sont utilisés, je le répète, non sans difficulté. Et puis de l'autre, les magistrats s'adaptent et font parfois appel à leurs collègues nigérians. J'avais rencontré en 2017 une magistrate nigériane d'Abuja. Elle était venue passer plusieurs mois au tribunal de Palerme pour aider ses collègues italiens sur leurs enquêtes, leur expliquer notamment comment fonctionnaient ces groupes criminels. C'était une collaboration très discrète à l'époque.
Merci beaucoup Cécile Debarge, en direct de Palerme en Sicile, sur les terres de Cosa Nostra. Célia Le Burge, Joanne Tilouin, on a déjà des réponses partielles aux questions de nos auditeurs. Comment est-ce possible? Comment, par exemple, le gang du Black Axe peut échapper à la justice en Europe, hein? On a des justices qui sont bien établies. Est-ce que vous avez d'autres éléments à nous apporter sur la difficulté finalement de freiner l'expansion de ces gangs nigérians?
Oui, alors déjà, voilà, pour revenir sur ce que disait votre correspondante sur ce que fait la justice italienne, pourquoi c'est aussi difficile en fait pour eux de faire condamner souvent les gens des gangs nigérians, c'est parce que d'une part, en fait, ils sont considérés comme une mafia, mais en fait, ils arrêtent des dizaines et des dizaines de membres. Ils arrivent à faire condamner souvent les petites mains, les petits soldats, mais les chefs, ils n'arrivent pas à démontrer souvent qu'ils ont bien donné les ordres. Et c'est donc souvent les plus puissants et les chefs qui sont finalement acquittés par la justice. D'autre part, il y a effectivement des repentis au sein de ces groupes-là qui parlent, mais leur fiabilité est mise à l'épreuve bien souvent parce que finalement, on se rend compte que d'un interrogatoire à l'autre, ils racontent souvent n'importe quoi, en tout cas se contredisent énormément et du coup, leurs témoignages ne sont plus valides. Donc ça, c'est déjà une difficulté que rencontre la justice. Ensuite, ce qu'il faut imaginer, c'est que ce sont quand même vraiment des groupes extrêmement souterrains qui empruntent les routes de la migration, donc qui sont par définition invisibles, qui n'ont pas d'existence légale et officielle. Donc quand ils arrivent en Europe, typiquement, ils se greffent sur des territoires souvent très marginalisés, abandonnés, où l'État, que ce soit français, italien, etc., est très peu présent. Parmi d'autres demandeurs d'asile, ils n'ont encore une fois donc pas d'existence officielle et ils font leurs petites affaires entre eux. Quand un Black Axe arrive, je sais pas moi, à Marseille ou à Palerme, il va tout de suite voir les gens de sa communauté, de son gang à lui, et il passe entre les mailles du filet. Et il faut vraiment qu'il se passe des choses, par exemple, comme des grosses scènes de viol en plein Marseille, comme on a pu avoir au moment du confinement, ou de très très gros événements pour que finalement la police commence à s'y intéresser.
Et comme vous dites, que la police commence à s'y intéresser parce que Marseille est devenue le haut lieu de la mafia nigériane, au moins 5 gangs implantés, hein, expliquez-vous. C'est d'ailleurs pas la première vague d'immigration nigériane qui pose problème, puisque la première vague d'immigration nigériane était beaucoup plus tranquille. Et finalement, comme ils s'implantent dans des quartiers marginalisés, on se dit que ce sont des règlements de compte qui se font entre eux, entre mafias locales, entre trafiquants de drogue notamment, des concurrences avec des trafiquants de drogue issus de l'immigration maghrébine, mais ça crée des zones de non-droit, ce qui veut dire que ces gangs ne s'implantent pas n'importe où, ils s'implantent dans des endroits où ça va être plus facile de prospérer.
Alors ils s'implantent là où ils peuvent déjà, quand ils arrivent, puisque comme on dit, ce sont aussi des migrants, des voyageurs qui arrivent sans le sou et qui se réorganisent sur place. Et ensuite, dans des villes comme Marseille, cohabitent avec d'autres réseaux criminels. Là, à Marseille, ce n'est pas comme en Italie. Ils ne sont pas des sous-traitants, des caïds locaux. Et s'ils sont montés à Marseille, beaucoup, c'est... on s'est rendu compte que beaucoup d'entre eux étaient recherchés en Italie, ont franchi la frontière illégalement et poursuivent leur odyssée. Après, pour répondre, je crois, à l'auditeur, c'est Patrick.
Oui, qui demandait que fait Interpol. Ben,
en fait, la coopération judiciaire avec le Nigeria, de la part, lorsqu'un magistrat européen, par exemple, envoie une demande d'entraide judiciaire à son homologue au Nigeria, eh ben, 90% des demandes restent sans réponse. La coopération judiciaire, la coopération policière transnationale, c'est toujours extrêmement compliqué.
Et, pourquoi ?
Parce que à la fois les demandes sont pas traitées dans le pays d'origine, parce que le crime organisé a toujours un temps d'avance sur les autorités, qu'elles soient judiciaires ou policières, et que la criminalité organisée est par essence transnationale. En revanche, les États ont souvent du mal à se parler. Et voilà. Et ça, on s'en est rendu compte dans notre enquête. C'est-à-dire que des policiers, même français et italiens, parfois, c'est compliqué de coopérer. Donc, avec le Nigeria, ça l'est encore plus. Et avec d'autres pays africains, puisqu'on voit qu'il y a des responsables de cultes nigérians qui ont des hôtels dans le golfe de Guinée, qui ont une activité et qui participent à l'importation de cocaïne par conteneur.
Vous suggérez dans votre enquête que cette conquête mafieuse à partir de l'Afrique vers l'Occident servirait aussi à un objectif, alors pas seulement vénal, financier, mais aussi presque politique, un peu comme une revanche post-coloniale.
Oui, c'est une idée qui nous traverse l'esprit. Après tout, pourquoi la mafia n'aurait pas, pourquoi l'Afrique n'aurait pas le droit finalement d'avoir sa propre grande criminalité organisée, puisque tous les continents en ont, et donc que ça soit des yakuza au Japon, de la mafia italienne, la mafia russe, etc. Et à vrai dire, c'est une idée qu'on a confrontée en fait à Wole Soyinka,
le grand écrivain. Et
ça, à vrai dire, ça l'a beaucoup amusé. Il s'est dit tiens, pourquoi pas. Et en effet, pourquoi pas ? Et finalement, est-ce qu'aussi avoir sa propre organisation criminelle, est-ce que ce n'est pas un signe aussi d'émancipation ? Il y a un point d'interrogation, j'en sais rien, mais c'est une question qu'on pose. Et c'est un attribut aussi d'un continent qui s'affranchit du joug colonial.
Est-ce que, dernière question, votre travail a fait l'objet de menaces, vos enquêtes, vous avez rencontré des chefs de gang, ou bien ces gangs anglophones finalement vivent relativement repliés sur eux-mêmes et ne sont pas forcément au courant des enquêtes dont ils font l'objet ?
Alors, nous, comme on les a vraiment rencontrés en se présentant et en expliquant notre démarche, ils savent hein, qu'on enquête sur eux, qu'on a enquêté sur eux. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on n'a pas eu tant de mal que ça à les rencontrer, même les chefs, les grands chefs, notamment parce qu'il y a tellement d'enquêtes criminelles aujourd'hui qui les concernent sur tous les continents. Il y a quand même de très, très grosses enquêtes du FBI. En Italie, il y a énormément d'enquêtes. Il y a eu beaucoup d'arrestations et de procès. En France, ça commence aussi également. Donc, en fait, aujourd'hui, ils sont dans une posture où ils défendent l'image de leur mouvement. Et justement, ils essayent de mettre en avant l'image du mouvement carré de l'organisation qui est là pour aider les autres, etc. Donc là-dessus, voilà, il y avait un petit peu un jeu de dupes quand on les a rencontrés, où ils étaient là pour parler de ça, et nous, on leur posait quand même toutes les questions qu'on voulait leur poser. Donc finalement, la complexité, c'est plutôt une fois que l'enquête est parue. Alors, le fait que ce soit francophone, enfin que ce soit en français, le livre, ça les dérange un petit peu moins que si ça avait été en anglais. Mais effectivement, il y a des gens qui sont pas très contents.
Merci à vous en tout cas d'être venu en direct chez 8 milliards de voisins. Dans quelques instants, on aura une version nettement plus positive de cette région du monde. L'Afrique qui gagne avec Jaïel Oliver qui a créé une appli pour louer des tracteurs aux agriculteurs au Nigeria et donc augmenter les rendements agricoles. À découvrir juste après, allez, une dernière pause musicale nigériane, c'est le rappeur Sidi Q. C'est Sodiq Abubakar Youssouf de son vrai nom.
Never carry over. Akakopa mi layo, agba koba. Trench boys, hi hi hi. Mapa mi na onse kai kai kai. Oba giri no be my. Mohammed Ali ishe lai lai lai. Oya seba po. Ofowo mo si gbale si ba po. Opere bola lai se yen acho. Mora ewa owa pina fo ma fo. I'm strapped with my fofo. Highway like fuck on the popo. Honey and clash see like the broco. This one a banga jam. Okwa po, yeah yeah.
Baduri, baluba. I'm the man, the man. And nobody bad like the man. See the cutie Maya and the band. When we come around steady on the man. We don't kid and play, go ask Judas. Where the girl them day, South Africa. We just want to play, we just want to happy, just holiday.
Milliards de voisins, nous sommes toujours en direct sur RFI, l'Afrique qui gagne. Voici le portrait de Jaïel Oliver, qui est créateur de Hello Tractor. C'est un Africain-Américain qui vit depuis 10 ans en Afrique, au Nigeria, au Kenya. Et il a développé une application donc, pour aider les agriculteurs à se mécaniser pour avoir de meilleurs rendements agricoles. Thomas Harms, notre correspondant de RFI à Houston, aux États-Unis, a pu le rencontrer.
I started my career in finance. I was an investment banker.
J'ai commencé ma carrière dans la finance. J'étais banquier d'affaires, j'ai travaillé pendant la crise financière et je voulais faire un travail qui ait plus de sens. J'ai commencé par structurer des fonds qui investissent dans des banques de microfinance qui servaient ensuite les populations pauvres. Ce que j'ai observé, c'est que de nombreuses personnes à la base de la pyramide sont des agriculteurs. Et de quoi ont-ils le plus besoin ? Ils ont besoin d'engins agricoles pour améliorer leurs revenus, leurs rendements, renforcer la sécurité alimentaire et développer les économies rurales locales. C'est à ce moment-là que j'ai imaginé Hello Tractor. Hello Tractor est une entreprise de technologie agricole qui met en relation les petits agriculteurs qui ont besoin de services de tracteurs avec les propriétaires de matériel agricole qui sont prêts à louer leur équipement.
Un agriculteur en Afrique de l'Ouest, comment il peut utiliser votre application ?
Our technology starts with a booking application that
community-based agents use.
Notre technologie repose sur une application utilisée par ce que nous appelons des agents communautaires, qui l'utilisent pour organiser les réservations d'agriculteurs de leur communauté qui souhaitent avoir recours à un tracteur. Notre application permet de réserver des plages d'utilisation de matériel agricole. Ces réservations sont associées à des propriétaires de matériel agricole qui utilisent une autre application que HelloTractor, non seulement pour identifier les clients qui ont besoin de services, mais aussi pour surveiller et gérer à distance leur matériel grâce à un dispositif de surveillance GPS et de gestion de leur flotte de matériel. Si vous êtes agriculteur en Afrique subsaharienne, vous travaillerez avec votre agent dans votre communauté pour réserver des services. Cet agent de réservation, qui a téléchargé l'application HelloTractor, est chargé de vous organiser, vous et vos amis agriculteurs, en un groupe pour être prêt quand le tracteur va arriver. Il peut parcourir 50 à 100 km pour arriver chez vous. L'utilisation du tracteur est prévue pour des semaines, voire des mois, parce que l'agenda d'utilisation du tracteur a été bien organisé par l'agent.
Et imaginons qu'un agriculteur ait envie de se lancer et de devenir un agent pour vous. Qu'est-ce qu'il doit faire ?
So we host agent days in target communities.
Nous organisons des journées de recrutement d'agents dans des communautés. Nous les formons à l'application pour qu'ils puissent mieux aider les agriculteurs en leur permettant l'accès aux engins agricoles, mais aussi grâce à des conseils agronomiques. Une fois qu'ils ont téléchargé l'application et qu'ils ont commencé à organiser les agriculteurs, ils reçoivent une commission sur chaque tâche qu'ils ont créée dans l'application et qui a fait l'objet de l'utilisation du tracteur.
Et où est-ce qu'on vous trouve en Afrique ?
We operate in 16 countries. We have offices in Nigeria and Kenya.
Nous sommes présents dans 16 pays. Nous avons des bureaux au Nigeria et au Kenya. On peut aussi nous trouver en Ouganda, en Tanzanie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire par exemple.
Comment un agriculteur peut avoir confiance dans votre application ? Il doit payer pour avoir accès à un tracteur.
We don't ask any of our customers to take risks on us.
Nous ne demandons à aucun de nos clients de prendre des risques. Ils paient lorsque le service est terminé. Et la personne en qui ils doivent avoir confiance dans cette transaction est l'agent de réservation communautaire. Ce qui est vraiment important, et ce qui a été une idée fondamentale pour nous, c'est de tirer parti du capital social existant au sein de ces communautés rurales en s'engageant auprès de personnes qui ont un réseau de connaissances. Ne faites pas confiance à HelloTractor, mais faites confiance à votre voisin, qui est aussi un agent de réservation HelloTractor. Et lorsque le tracteur sera dans votre champ et que vous serez satisfait, ce n'est qu'à ce moment-là que vous paierez pour le service rendu par l'application. Les agriculteurs et les propriétaires de tracteurs sont parfaitement d'accord avec ce fonctionnement.
Une dernière question. Pour vous, c'est quoi l'Afrique qui gagne ?
Je pense que, tout d'abord, nous devons cesser d'importer des denrées alimentaires que l'on peut cultiver nous-mêmes et où nous avons un avantage concurrentiel. Je pense que l'Afrique peut jouer un rôle significatif dans le système alimentaire mondial en tant qu'exportateur net de denrées alimentaires. Et je pense que la population mondiale a besoin que l'Afrique augmente sa productivité, car nous avons constaté ces dernières années que notre système alimentaire est beaucoup plus fragile en raison du changement climatique, des guerres comme celle en Ukraine et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la pandémie mondiale de Covid. Nous avons besoin de l'Afrique. Nous disposons de toutes les ressources. Nous avons un sol riche et fertile. Nous avons évidemment ce magnifique soleil africain et nous sommes bien placés pour aider à nourrir le monde. J'aimerais que tous ceux qui écoutent cet entretien considèrent l'Afrique comme une opportunité commerciale. Ce n'est pas une histoire de charité. L'Afrique n'est pas destinée à la philanthropie, mais à des entrepreneurs commerciaux et dynamiques qui veulent résoudre des problèmes mondiaux. Et nous devrions investir en conséquence dans ces opportunités.
Demain, 8 milliards de voisins, nous parlerons des écoles privées en Afrique. Avec la massification et l'effondrement du niveau des écoles publiques, eh bien, les familles se mettent la pression pour envoyer leurs enfants dans les écoles privées, dont les prix s'envolent, où la qualité est peu contrôlée. On attend bien sûr vos témoignages sur l'école privée de vos enfants, les voisins et les voisines. Appelez-nous surtout dès maintenant au 33 7 64 45 51 41 où vous envoyez vos notes vocales. Merci à toute l'équipe, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Divine Berthoud, Romain Dubrac, Didier Cherouze.